Bonjour tout le monde, nous continuons à étudier le grand, grandissime message de Naomi Klein. Tout peut changer. Et aujourd'hui, les combats de l'amour, du sida et du changement climatique. Vive l'amour, nous dit Naomi Klein dans son message d'espoir pour la planète. L'amour et le respect de nos enfants, l'amour de l'autre, de tous les autres, et le respect de notre héritage planétaire, de l'eau, de la vie, de ce que nous devons transmettre. Et Naomi cite l'écrivain poète paysan Wendell Berry. La conservation est une question de tendresse. Si chacun aimait assez son milieu de vie pour le défendre, il n'y aurait ni crise économique, ni zone sacrifiée. Nous n'aurions d'autre choix que d'adapter des méthodes non nocives pour répondre à nos besoins. Naomi nous dresse un tableau de quelques luttes dans le monde. Impressionnant panorama des crimes écologiques contre l'humanité, mais aussi superbe démonstration des recettes accessibles à tous. L'ennemi, c'est la finance, disait quelqu'un. Triste et absolue réalité, mais aussi axiome de choc, libérateur, et créateur de fantastique efficacité. Quand on veut vraiment s'y opposer, évidemment. Un des principes spécifiques, c'est bien sûr de s'attaquer au capitalisme à la racine. Monter un mouvement de désinvestissement anti-extractiviste qui s'activerait auprès des supports financiers et ou idéologiques des énergies fossiles. Alors en Amérique sont accessibles d'abord les universités, ce qui peut surprendre, je ne sais pas comment fonctionnent exactement les universités en France. Mais en Amérique, ce sont des suppôts du capitalisme assez ébouriffants. Alors donc, on peut s'attaquer psychologiquement, psychanalytiquement, aux universités en Amérique, aux fondations culturelles zoo-humanitaires, aux collectivités locales et aux congrégations religieuses et d'autres encore. Et cette démarche est tout à fait adaptable en Europe. Ces hauts lieux de réflexion retireront leur soutien et leurs fonds aux prédateurs fanatiques des énergies fossiles et feront chuter leur image de marque. Bien sûr, direz-vous, ça va pas mettre en faillite Shell, Chevron ou Exxon. Mais ça va saboter leur réputation. Et puis, c'est carrément jouissif de refuser les subventions de ces gros pollueurs. Et de le faire savoir, bien sûr. Et puis, vous savez pas, The Monstre, Goldman Sachs, l'étouffeur, le grand liquidateur, le bradeur d'entreprise, Goldman Sachs, il a tout compris. Il suit l'évolution des idées. Il mesure l'impact possible sur la finance des alertes écologiques. Et qu'est-ce qu'il a fait, Goldman Sachs? Il retire ses billes des entreprises extractivistes, pétrolières ou minières. Pas fou, Goldman Sachs. Nous ici, depuis l'affaire Elf, nous savons bien que fric et politique ne font qu'un. Alors, si nous ne pouvons pas mettre en faillite les pétroliers et autres sociétés minières, attaquons-nous à leur réputation et privons-les de leur ascendant politique. Cette démarche a déjà donné des résultats probants dans la lutte contre le tabac. Et c'est finalement ce qu'ont fait les Sidéens à la fin des années 80 contre les grands labos à Wall Street directement pour obtenir l'abaissement des prix des tri- et multithérapies avec le succès quasi immédiat que l'on sait. C'est bien au porte-monnaie qu'il faut s'attaquer. Et tout est histoire de motivation. Les Sidéens de Wall Street, se sachant condamnés, n'avaient plus rien à perdre. Il ne leur restait que leur voix, leur dernier souffle et leur amour pour sauver les leurs et le reste de la planète. On peut les saluer et leur dire merci encore et suivre leur exemple efficace, l'exemple d'ACT UP. La haute et urgente tragédie qu'ils dénonçaient a imposé immédiatement la nouvelle politique des laboratoires. N'attendons pas, n'attendons plus. L'hécatombe du changement climatique a déjà commencé. C'est le message de Katrina et des catastrophes qui s'enchaînent depuis déjà plusieurs décennies. À Wall Street, les Sidéens étaient quelques-uns désespérés et déterminés. Nous sommes des millions, des dizaines de millions. Alors avanti ! En commençant par le boycott de tout ce qu'on peut éviter, refuser, remplacer, en ôtant nos œillères consuméristes avec un peu d'entraînement. Avanti ! L'amour ou la mort ? À pied, à cheval, en vélo, en patin, roulette, trottinette, pirogue, péniche ou en pédalo ? Mais surtout pas en avion ? Sauf joker exceptionnel pour les océans, bien entendu. En route pour un petit tour du monde avec Naomi Klein. du côté européen pour commencer. On sait que pour extraire gaz et huile de schiste, la couche terrestre est soumise à la fracturation hydraulique, ensemble d'agressions explosives et chimiques dont les conséquences néfastes sont constatées, entre autres, aux États-Unis, et que le peuple français a réussi, pour l'instant, à empêcher sur son territoire. Mais méfions-nous de Total, qui n'a pas dit son dernier mot. Et on sait bien à Toulouse de quoi Total est capable. Malgré son gros potentiel en gaz de schiste, la France a imposé un moratoire en 2011 contre la fracturation hydraulique. Et la Bulgarie et la République tchèque et d'autres pays ont suivi son exemple. Même dans les États où la fracturation n'est pas interdite, au Royaume-Uni ou en Espagne, certaines régions comme l'Écosse, le Pays de Galles, la Catalogne, voient leurs autorités régionales interdire ce procédé d'extraction. L'Allemagne n'interdit pas la fracturation hydraulique, mais la limite en autorisant uniquement les puits d'essai. Les conséquences commencent à en être visibles. À la suite des forages à Solingen, en Basse-Saxe, des victimes se manifestent déjà dans un reportage sur l'état de la nature et la santé des riverains de ce forage, qui sont très inquiets. Erdwin Schön habite avec sa famille au milieu du champ gazier à Solingen, où l'on extrait le gaz du sol à moins de 200 mètres de sa maison. Il a remarqué des faits étranges sur son terrain. Parlant de son étang au printemps dernier, il affirme « Pendant cette période, les quelques 150 carpes que j'y avais sont toutes mortes, comme ça, sans que je sache pourquoi. Quant aux arbres, ils meurent aussi, sans raison. » La véritable raison est l'immense installation qui filtre les liquides toxiques provenant du gaz. Ce que j'observe, c'est que parfois on dirait qu'on n'a plus d'air, tellement ça pue ici. Les canalisations plastiques utilisées par Exxon sont incapables de retenir le benzène qui se diffuse à des concentrations énormes, jusqu'à 150 000 microgrammes par litre, dans le terrain où l'on retrouve des hydrocarbures benzéniques qui sont soit cancérigènes, soit mutagènes, mais toujours toxiques, non seulement par ingestion ou inhalation, mais aussi, dans la plupart des cas, par contact cutané. Étant souvent très inflammables, ils rendent nécessaires d'importantes précautions de stockage et des protections adéquates comme les gants, les masques et même des combinaisons de protection intégrale. Tout le monde se souvient de cette vidéo où on enflammait l'eau à sa sortie du robinet. Plusieurs séismes survenus ces dernières années aux États-Unis et dans le nord de l'Allemagne sont associés aux gisements d'exploitation de gaz naturel. Le 25 janvier 2017, l'agence Reuters annonce « Les députés français ont voté l'interdiction totale d'exploration et d'exploitation des gaz et huiles de schiste. » Chic alors. Mais la droite majoritaire au Sénat, hostile à cette interdiction, n'a pas mis ce texte sur son bureau jusqu'à présent. Et le Parlement sera immobilisé pendant la campagne électorale. Même si l'Assemblée nationale a toujours le dernier mot, il n'est pas certain que le texte puisse être adopté définitivement. La prochaine législature, en cas d'élection d'une majorité de droite, pourrait changer la donne. Ségolène Royal et Christophe Sirugue, secrétaire d'État à l'industrie, confirment ce texte qui complète la loi de juillet 2011 interdisant la fracturation hydraulique, mais permettant l'expérimentation aux fins de recherches scientifiques et d'éventuelles techniques alternatives. La France donne l'exemple après la COP21 pour interdire les gaz de schiste et imposer le code de l'environnement aux permis miniers, a déclaré Ségolène. Cette mesure se justifie par les risques techniques d'atteinte à la santé et à l'environnement liés aux explorations et exploitations d'hydrocarbures non conventionnels. Alors, sans schéma très précis de coupes géologiques, c'est difficile de s'y retrouver. Qu'est-ce que c'est que ça, les hydrocarbures non conventionnels? Eh bien, c'est tout simple. Ce sont bien sûr les hydrocarbures liquides ou gazeux piégés dans la roche mère, à l'exception des hydrocarbures gazeux contenus dans les veines de charbon, ainsi que les hydrates de méthane enfouis dans les mers et sous le pergélisol, dit le texte de loi. Ailleurs en Europe, l'extraction a commencé et va bon train. Plusieurs puits ont déjà été creusés en Europe de l'Est, notamment en Pologne, qui en était le plus grand partisan. Mais les puits d'essai ont révélé que la Pologne possédait moins de gaz que prévu. Les protestations des environnementalistes ont compliqué ces projets. Et les investisseurs ont quitté le pays. La Roumanie a vécu le même scénario. Doana des Dieux, une villageoise roumaine, explique. Nos cuisines débordent de confitures, de conserves, de sacs de noix, de caisses de miel et de fromage, tous produits localement. Nous ne sommes pas si pauvres, nous n'avons peut-être pas d'argent. Mais nous avons de l'eau de qualité, nous sommes en bonne santé et nous souhaitons simplement qu'on nous laisse tranquilles. Où qu'ils vivent, les gens se battront pour leur eau, quitte à en mourir. Pouvons-nous vivre sans eau, scande les agriculteurs de Pungesti, opposés à l'extraction du gaz de schiste roumain? Pouvons-nous vivre sans eau? Non. Pouvons-nous vivre sans chevron? Oui. D'autres États ont décidé qu'il était préférable de ne rien commencer dans ce domaine. La Norvège et la Suède ont décidé que l'exploitation des couches de schiste était économiquement non rentable. En Grèce, Naomi Klein a vu resplendir le mouvement anti-extractiviste en Chalcidique contre le projet de mine d'Eldorado. J'ai vu resplendir en Chalcidique dans la lutte menée contre le projet de mine d'Eldorado, ce mouvement. Une jeune mère du nom de Melakrini Liakou, aux premières lignes du mouvement d'opposition, m'a expliqué avec assurance la différence entre la façon dont elle perçoit son lopin de terre en tant qu'agricultrice de quatrième génération et la perspective de la société minière. Je fais partie de la terre, je la respecte, je l'aime, je ne la traite pas comme un bien de consommation jetable, car je veux y vivre maintenant, l'année prochaine, et la léguer aux générations futures. À l'inverse, la société Eldorado, comme toutes les autres sociétés minières, ne cherche qu'à piller le sol, à s'en approprier les richesses. Une fois son boulot accompli, elle repart en laissant derrière elle une énorme bombe chimique qui menace les humains et la nature. Pour cette éleveuse environnementaliste de 33 ans qui pratique le yoga pour son temps libre, c'est moins l'agriculture que la chasse aux cerfs qui est en cause. ça peut sembler ridicule, mais il y a un endroit où je peux m'asseoir sur un rocher de grès et sentir qu'un troupeau de cerfs va passer, comme ils le font depuis des milliers d'années. J'ai l'impression de vibrer avec eux et parfois de sentir la terre respirer. Arch Cole ne peut comprendre une telle symbiose avec ce lieu. L'amour que les gens lui portent, elle minimise l'importance de cette dimension. Pourtant, c'est ce qui va finir par sauver l'endroit, non pas l'hostilité ou la colère envers l'industrie du charbon, mais bien l'amour. Écoutons Annie Vassilio, travailleuse sociale en lutte contre ce projet. Nous risquons, ici en Grèce, de ne plus jamais connaître le printemps, ni l'automne, et on ne cesse de nous mettre en garde contre le danger d'être exclus de la zone euro. Quelle folie! Autrement dit, on peut renflouer une banque en difficulté, mais que l'Arctique se débrouille. en Afrique du Sud, Shell projette de lancer des projets de fracturation hydraulique dans le Karoo, une majestueuse région semi-désertique d'Afrique du Sud, dont le nom signifie littéralement « terre de la grande soif ». D'où la réaction du chef spirituel Oom Johannes Willems, « L'eau est sacrée. Sans eau, à quoi bon vivre ? Je suis prêt à me battre à mort. Je ne les laisserai pas empoisonner notre eau. » En Inde, l'état de l'Andhra Pradesh, dans le sud-ouest du pays, est le théâtre de luttes hautement symboliques, comme celle que livre le village de Kakarapahi, entouré de rizières et de plantations de cocotiers, dont les résidents assurent une surveillance semi-permanente à l'ombre d'un baobab situé à l'entrée du village. Le campement des opposants barre la seule route menant à une centrale thermique inachevée, dont la construction a été interrompue en 2011 en raison des protestations populaires. À Sompeta, non loin de là, un autre projet de centrale a été bloqué grâce à une alliance inédite entre des citadins de la classe moyenne et des petits agriculteurs et pêcheurs de subsistance qui ont fait front commun pour protéger les zones humides avoisinantes. En 2010, après un assaut des forces policières contre une foule de protestataires, au cours duquel au moins 2 manifestants ont été abattus, un soulèvement national a contraint les autorités indiennes à révoquer le permis de construire de la centrale en question. La population reste en alerte, menant une grève de la faim rotative qui a atteint son 1500e jour début 2014. Sur le continent américain, dans l'Alberta, dans la Colombie-Britannique, on trouve bien sûr les sables bitumineux qui nous donnent la leçon de Kalamazoo. Le 25 juillet 2010, dans l'État du Michigan, la rupture d'un pipeline de la société Enbridge a entraîné le déversement de plus de 3 millions de litres de bitume dilué provenant des sables bitumineux de l'Alberta dans la rivière Kalamazoo, longue de 200 km, qui se jette dans le lac Michigan. Le lac Michigan, vous savez, fait partie des grands lacs et tous les grands lacs américains communiquent entre eux. Je vous dis pas le dégât. 3 ans et plus de 800 millions de dollars plus tard, le nettoyage n'est toujours pas terminé. Le bitume, pétrole lourd et très visqueux, a coulé au fond et s'est accumulé à certains endroits. La rivière a dû être interdite sur 55 km pendant 2 ans. Et des tonnes de sol souillé ont été excavés et décontaminés sur les berges. L'Agence de protection de l'environnement américaine estime que 680 000 litres de bitume restent présents dans le lit du cours d'eau. Si on sait pomper les nappes huileuses à la surface, récupérer les sédiments souillés est autrement plus compliqué. On procède par agitation, en remuant manuellement le fond de la rivière avec des bâtons pour faire remonter le pétrole. C'est ça le progrès. On essaie ensuite de rassembler ces gouttelettes en surface pour les absorber ou les aspirer. Technique toutefois insuffisante. On organise le dragage des sédiments pour récolte et décontamination, ce qui ne permettra d'enlever que 10% du bitume restant. Si le niveau d'eau monte ou qu'il y a un peu de remous, les sédiments recommencent à libérer du pétrole. Et ça va durer des années. Une grande mobilisation s'est organisé pour sauver le saumon et sauver le fraser qui est son milieu préféré. Pour accueillir les organisateurs d'une catastrophe annoncée, extractiviste, la population s'est mobilisée. Le long du parcours se tiennent des centaines de résidents, dont un grand nombre d'enfants munis de leurs pancartes écrites à la main. « Le pétrole, c'est la mort. Nous avons le droit de dire non. Gardez notre océan bleu. Notre mode de vie ne s'achète pas. Le pétrole ne se boit pas. » Certains brandissent des dessins d'orques, de saumons et même de varechs. Sur bon nombre de pancartes, un simple message. Pétrolier, non merci. En décembre 2011, à la cérémonie de signature de la déclaration pour sauver le fraser, parmi de nombreux chefs autochtones, signataires et sympathisants non autochtones, Maréline Baptiste, élue de la nation Xeni-Gwetin du peuple Chilcotin, précise « Nous vivons à la source de la rivière Chilco, l'une des voies migratoires du saumon les plus importantes. Cette voie comprend aussi la Taseco, qui se jette dans la Chilco, qui se jette à son tour dans la Chilcotine, qui se jette ensuite dans le Fraser. Le bon sens veut que nous soyons tous des peuples unis. » Mettre le Fraser en péril, c'est mettre en danger tous les êtres qui en dépendent. Nous ne permettrons pas que nos poissons, notre faune, notre flore, nos peuples et notre mode de vie soient menacés. Nous ne laisserons pas l'oléoduc Northern Gateway de la société pétrolière Enbridge, ni aucun autre projet de transport du pétrole issu des sables bitumineux traverser nos terres, nos territoires, nos bassins versants ou les voies migratoires des saumons du Fraser. Le devoir de protéger l'eau ne fait pas qu'unir les opposants à l'oléoduc Northern Gateway. Il anime tous les mouvements qui s'opposent à l'exploitation abusive des ressources. Qu'il s'agisse de projets de forage en haute mer, de fracturation hydraulique, de mines, d'oléoducs, de transport de véhicules gros porteurs ou d'aménagement de terminaux d'exportation, ces collectivités s'inquiètent pour leurs réserves d'eau. La même peur unit tous les habitants. Mais il faut reconnaître que, moyennant ces catastrophes, les ouvriers du secteur des sables bitumineux d'Alberta ont une vraie vie de rêve. Les ouvriers du secteur des sables bitumineux parlent souvent du temps qu'ils passent dans le nord de l'Alberta comme d'une peine de prison lucrative, plutôt que comme d'un emploi. Il y a le plan triennal, économiser 200 000 dollars, puis passer à autre chose. Le plan quinquennal, qui permet de mettre de côté un demi-million. Et le plan décennal, grâce auquel on peut amasser 1 million de dollars et prendre sa retraite à 35 ans. Peu importe ses modalités ou son irréalisme, étant donné qu'on passe souvent une bonne partie de la paye à faire la fête. Le programme est à peu près toujours le même. Fais ton temps à Formac ou Formac Money, comme on l'appelle souvent, puis fous le camp et commence ta vraie vie. Lors d'un sondage, 98% des sondés travaillant dans l'industrie des sables bitumineux ont exprimé leur intention de prendre leur retraite ailleurs. Ce choix de vie a souvent de tristes répercussions. Derrière la bravade des fêtards se cachent des taux de divorce vertigineux dus à des séparations prolongées ou à des conditions de travail stressantes, une augmentation fulgurante des problèmes de dépendance et le désir d'être ailleurs. Cette distanciation fait d'ailleurs partie des facteurs qui amènent des gens intègres à contribuer à la dévastation de l'environnement. Les États du Montana, l'État de Washington, le Delaware, la Californie présentent des témoignages du même genre. La même peur unit les éleveurs bovins du sud-est du Montana, les Cheyennes du nord et les collectivités de l'État de Washington qui s'opposent aux trains de charbon et aux terminaux d'exportation de ce minerai. C'est le risque de contamination de l'eau qui a engendré le mouvement d'opposition à la fracturation hydraulique, la proposition de forer quelque 20 000 puits dans le bassin du Delaware, source d'eau potable de 15 millions d'Américains, l'a d'ailleurs fait connaître de l'ensemble du pays.
Thank you.
De contamination qu'il présente, la quasi-totalité de ces projets d'exploitation requiert des quantités d'eau faramineuses. Il faut par exemple 2,5 barils d'eau pour produire un seul baril de pétrole à partir des sables bitumineux, soit beaucoup plus que la quantité nécessaire à la fabrication d'un baril de pétrole brut conventionnel de 0,1 à 0,3 barils d'eau. D'où les gigantesques bassins de décantation, visibles de l'espace, qui se trouvent à proximité des mines de sable bitumineux et des raffineries. De même, les nouveaux procédés d'extraction du gaz et du pétrole de schiste requièrent beaucoup plus d'eau que le forage conventionnel, et les méthodes de fracturation employées dans les années 1990. Selon une étude publiée en 2012, les événements de fracturation d'aujourd'hui nécessitent en moyenne 20 millions de litres d'eau, soit de 70 à 300 fois plus que la technique de fracturation conventionnelle. Une bonne partie de l'eau ainsi employée devient radioactive et toxique. En 2012, aux États-Unis seulement, l'industrie a produit plus de 1 000 milliards de litres de ces eaux résiduelles, soit assez pour engloutir la ville de Washington sous une lagune toxique d'environ 7 mètres de profondeur, rapporte The Guardian. Autrement dit, l'extractivisme entraîne la contamination d'énormes quantités d'eau, élément essentiel à notre survie. Et ce, pour accroître la production de combustibles qui menacent eux aussi notre survie et qui pourraient être remplacés par d'autres sources d'énergie. Qui plus est, cela se produit à un moment où les réserves d'eau douce sont déjà en péril un peu partout sur la planète. En effet, l'eau utilisée à des fins d'extraction provient souvent d'aquifères déjà mis à mal par des années de sécheresse. Ainsi, dans le sud de la Californie, où des firmes lorgnent les schistes de Monterey, et au Texas, où la fracturation a connu un essor phénoménal au cours des dernières années. Mais de plus en plus, la solidarité, les luttes arrivent à vaincre la cupidité capitaliste, comme c'est le cas au Costa Rica, qui en 2010 a adopté une loi historique interdisant tout nouveau projet de mine à ciel ouvert dans le pays, ou encore l'issue heureuse de la lutte menée par des résidents de l'archipel colombien de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, qui ont réussi à renverser le projet de leur gouvernement d'autoriser l'exploitation pétrolière dans les eaux entourant leurs magnifiques îles, où se trouve un des plus vastes récifs coralliens de l'hémisphère occidental. Comme le souligne un compte-rendu des événements, le mouvement de résistance a permis d'établir que le corail était plus important que le pétrole. Depuis quelques années, on a vu apparaître en Chine un nouveau phénomène qui préoccupe au plus haut point le parti au pouvoir. Les élites riches bénéficiaires de l'ouverture du pays au capitalisme s'inquiètent de plus en plus des coûts de l'industrialisation. Li Bo, directeur des Amis de la Nature, la plus ancienne organisation environnementaliste du pays, qualifie la pollution atmosphérique urbaine de « Superman des enjeux environnementaux chinois ». « Il faut remercier le smog », lance-t-il en s'amusant de l'ironie d'une telle affirmation venant d'un environnementaliste. Jusqu'ici, les élites se sont protégées des menaces environnementales comme la contamination du lait maternisé et de l'eau parce qu'elles en ont les moyens. Elles peuvent se faire livrer des produits sûrs à leur porte. Mais, riche ou non, nul ne peut se mettre à l'abri de la pollution atmosphérique. Personne ne peut recevoir d'air pur par la poste, fait remarquer Li Bo. Et c'est là toute la beauté de la chose. Pour donner une meilleure idée de l'ampleur de la crise sanitaire en Chine, précisons que l'Organisation mondiale de la santé a établi le seuil critique de concentration de polluants atmosphériques dangereux sous forme de particules fines en suspension à 25 mg par mètre cube. Un taux de 250 mg est jugé dangereux par le gouvernement américain. Or, en janvier 2014 à Pékin, ce taux de particules cancérigènes a atteint 671. Les masques de papier omniprésents n'ont pas suffi à prémunir les gens contre les maladies respiratoires ni à protéger les enfants, dont certains ont reçu un diagnostic de cancer du poumon dès l'âge de 8 ans. Entre-temps, la municipalité de Shanghai a introduit un protocole d'urgence en vertu duquel on ferme les garderies et les écoles primaires et on annule tous les grands rassemblements extérieurs, comme les concerts, les matchs, quand les taux de particules atmosphériques atteignent 450 mg par mètre cube. Chen Jinping, ancien dirigeant du Parti communiste chinois, maintenant à la retraite, n'a donc surpris personne en mars 2013 lorsqu'il a admis que la pollution était aujourd'hui la plus importante cause d'agitation sociale en Chine, déclassant même les conflits relatifs à la propriété des terres. Ce petit tour du monde serait incomplet si on ne parlait de l'Amazonie. L'Amazonie, je n'ai pas de chiffres précis, j'ai seulement des souvenirs alarmants. De fleuves sublimes il y a 20 ans qui sont complètement pollués de mercure à la suite des recherches aurifères et des déversements sauvages, donc de mercure et de, non, je sais pas, du cobalt, enfin une horreur chimique qui permet d'extraire, de récupérer l'or plus facilement, mais à quel prix écologique. Et puis il n'y a pas que les rivières qu'on a détruites, que les fleuves sublimes, gigantesques. Il y a aussi les coupes claires qui se font dans l'Amazonie. Pour l'Occident, grand consommateur de bois précieux. Oui, c'est toute notre faute, et il serait temps d'y penser. Thank you. Alors, tout comme l'ont fait les CD1 à la fin des années 80 contre les grands labos à Wall Street directement, pour obtenir l'abaissement des prix des tri et multithérapies avec le succès quasi immédiat que l'on sait, c'est bien au porte-monnaie qu'il faut s'attaquer. Et tout est histoire de motivation. Les CD1 de Wall Street, se sachant condamnés, n'avaient plus rien à perdre. Il ne leur restait que leur voix, leur dernier souffle et leur amour pour sauver les leurs et le reste de la planète. Saluons-les et disons-leur encore merci. Et suivons leur exemple efficace, l'exemple d'Act Up. Ils étaient quelques-uns désespérés et déterminés. Nous sommes des millions, des dizaines de millions. Avanti! Ben, j'ai pas résisté à vous répéter cette petite strophe, à la fois désespérée et passionnée. J'espère qu'elle vous dynamisera. Et pour nous dynamiser, vous avez entendu tous parler de l'histoire du colibri, la légende du colibri. Eh bien, nous avons des villes, des villages, des quartiers, des pays en transition, bourrés de colibris. Et quel est le pouvoir du colibri? Que peut faire un colibri seul? Bon, je répète au cas où quelqu'un n'aurait jamais entendu l'histoire, le colibri, c'est le tout petit oiseau qui essaye un jour de grand incendie dans la forêt, qui essaye d'aller chercher quelques gouttes d'eau dans son petit mais long bec. Il essaye d'aller chercher quelques gouttes d'eau et puis il revient sur les lieux de l'incendie et il verse ses 3 gouttes d'eau. Et tous les animaux de la forêt qui s'en vont au galop lui disent « Mais t'es pas bien, colibri, tu vas te faire griller et puis c'est tout, tu vas pas éteindre ça à toi tout seul. » Et le colibri répond « Non, bien sûr, mais je fais ma part. » Alors, Pierre Rabhi et ses amis ont beaucoup raconté l'histoire du colibri. Et il y a des colibris qui poussent, on se convertit colibri un petit peu partout. Et il y a plein de colibris à Toulouse qui se réunissent le 3e vendredi du mois, si je ne me trompe, à la salle Sans Sous-Bras à 19h. On amène chacun de quoi alimenter l'auberge espagnole. Et quand un colibri rencontre un colibri, qu'est-ce qu'il se raconte? Des histoires de colibris. Et on s'enrichit de nos histoires de colibris et on se remonte le moral. Et que peut faire un colibri? Un colibri tout seul. Eh ben, un colibri tout seul, il peut colibrier sa famille, si elle est sur place. C'est ce qu'il y a de plus facile en général. Quoique, on peut tous essayer, même les grandes et les grands timides. Un colibri, il peut colibrier les copains, les voisins, au travail, etc. Il peut se faire un moral en silex en allant à la salle Sans Sous-Bras le 3e vendredi du mois. Prochaine date de réunion colibri, 21 avril, 19 mai, 16 juin 2017. Et c'est formidable de se rendre compte à quel point on est nombreux. On y prend confiance en soi et confiance dans l'avenir. Alors, pour colibrier efficace, on écoute, on questionne, on s'exprime, on note, on essaie et on se lance dans le « do it yourself » parce que c'est créatif, expressif et économique. Et parce que un colibri, ça jette très peu, presque pas du tout, à peine dans le compost. Et ça, c'est pas jeté, c'est recyclé encore, transformé donc, et économiser notre pauvre planète. Et puis, on échange techniques, recettes, bulots verts, graines de citrouille, mais pas que, coups de main et éclats de rire. Et ça crée des liens. Alors, un colibri plus un colibri, ça fait une équipe dynamique et convaincante. Et plusieurs équipes vont convaincre et dynamiser leur quartier, comme dans le quartier des Chalets, par exemple, ou leur municipalité, qui deviendront des quartiers et des villes en transition. Il y a 460 collectivités en transition, de Bogota à Vancouver, de Totsn en Grande-Bretagne, à Ingersheim, en Alsace, comme nous le montrent Marie-Monique Robin et Rob Hopkins. Et Toulouse en transition a ainsi été créée le 27 avril 2013. Vous pouvez voir ça sur www.toulouse.transitionfrance.fr. Il y a 50 pays en transition, comme le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, la Suède, la Norvège, l'Islande, le Costa Rica, la Colombie, l'Uruguay, le Brésil, et d'autres encore. Et n'oublions pas que la capacité d'une collectivité à survivre aux événements météorologiques extrêmes dépend beaucoup de son tissu social. Et avec à voir sur le site des Colibris Toulouse, vous aurez une idée de la créativité de ces volatiles. Allez-y, allez-y, Colibris Toulouse. Et pour ceux qui se trouveraient par hasard le 22 mars, ce mercredi 22 mars à Paris, eh ben il y a la deuxième conférence plénière du cycle Lost in Transition, organisée par l'Association de communication et d'information sur le développement durable. Et je pense qu'on aura des comptes rendus par les Amis de la Terre et autres colibris énergiques. Et puis, en ces temps électoraux, je ne peux pas résister à vous transmettre ou à vous rappeler, pour les chanceux, une citation de George Orwell. Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres n'est pas victime, il est complice. Voilà, j'espère avoir rattrapé le contact, avoir renoué le fil qui s'était distendu depuis plus d'un mois, où j'ai eu quelques problèmes des mémères de mon âge, voilà. Mais je remonte la pente et je vais pas vous lâcher comme ça. Alors je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Et vous pourrez retrouver toutes ces élucubrations, bien entendu, sur www.canalsud.net. Tout comme vous pouvez retrouver aussi toutes les petites émissions que je vous ai enregistrées directement sur le site. Pendant tout ce temps-là, du fond de ma cambuse. Voilà. Et à samedi prochain. Merci.